André Limbouchma au Kassai Oriental. Je réfute totalement ce qui se
passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à vous tous qui avez choisi Radio Capi, la fréquence de la paix. Parole aux auditeurs vous propose aujourd'hui un nouveau numéro. Le rôle des autorités locales dans les développements de leurs entités est au centre des séances de sensibilisation qu'organise à Kinshasa le Centre National d'Appui au Développement et à la Participation CNADEP en sigle. Le but, améliorer le rôle des bourgmestres, chefs des quartiers ainsi que des chefs des localités dans la gestion de leurs entités. Que proposez-vous pour renforcer le rôle des autorités locales dans la gestion de la communauté? Vous pouvez participer à cette émission en composant les 081 890 6315 pour votre intervention en direct. Vous pouvez aussi nous rejoindre à notre adresse pa@radiocapi et vous avez également la possibilité de déposer vos commentaires sur notre page Facebook. Nadine Foula, Pierre Lameji et Jean-Noël Mokondo réalisent cette émission. J.R. Lungembo vous la présente sous la supervision de Nicole Ngaka. Bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 6315 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Voilà, nous avons dans ce studio Danny Singoma, directeur général de CNADEP, Centre National d'Appui au Développement et à la Participation Populaire. Danny Singoma, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous avez eu organisé des séances de sensibilisation, question d'amener les gens à comprendre les rôles des autorités locales. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur les motivations de cette opération?
Oui, merci beaucoup d'avoir pour votre invitation. Le CNADEP, le Centre National d'Appui au Développement et à la Participation Populaire, est une ONG de la société civile congolaise qui est sur terrain depuis l'an 2000. Et nous nous sommes donné pour mission d'aider, de renforcer la participation des communautés à la prise de décision et aussi de renforcer cette communauté dans sa liberté d'expression. Mais nous avons remarqué dans notre travail que la communauté en général ou les communautés de base sont très distantes des autorités qui, pour la plupart, tout d'abord, comme on le sait, les autorités locales ne sont pas élues. Et comme ils ne sont pas élus, ils ne se sentent pas très redevables vis-à-vis de la population et cela crée une rupture entre les autorités et la population. Alors notre rôle, c'est de renforcer tout d'abord un dialogue démocratique entre les autorités au niveau de la base et la population pour qu'ensemble ils contribuent au développement de leur milieu. Et il faut donner le pouvoir et l'autorité, redonner l'autorité à ces autorités locales qui n'en ont plus presque parce que d'abord désignées loin de la population. La méfiance est très grande entre ces autorités et la population. Et nous pensons que pour que le développement soit effectif, il faut renforcer l'autorité de ces administratifs au niveau des quartiers, au niveau des communes, pour qu'ils deviennent, qu'ils aient un peu plus de force de parler et d'intervenir pour la population. Et quand la population va vers elle pour ses solutions, elle sait qu'elle a des interlocuteurs plus viables avec lesquels elle peut traiter de ces questions.
Oui, mais tout ça, selon certains observateurs, M. Dany, ne peut passer que par l'effectivité de la décentralisation.
Si, la décentralisation est un processus. Et il faut des alternatives qui doivent être créées à partir de maintenant. Ce n'est pas simplement au niveau de l'État, au niveau du gouvernement, qu'on va rendre effectif la décentralisation, mais il faut que la population prenne les devants, que la population s'organise, et c'est ça le travail que le CNADEP fait, organiser la population au niveau de la base, aider à ce qu'il y ait des comités de quartier, à ce qu'il y ait des associations fortes au niveau de la base, et que ces associations soient à même de créer des conditions favorables pour la décentralisation. Il faut que la décentralisation se vive d'abord comme un état d'esprit, plutôt qu'un fait politique ou un fait juridique.
Oui, mais parce que, disons encore tous vos propos là, on se rend compte qu'il y a des enjeux et aussi des défis. Hein. Parce que si aujourd'hui les chefs des quartiers ou encore l'autorité locale n'est pas mise en contribution, il y a beaucoup de paramètres, il y a aussi beaucoup de contraintes, beaucoup d'autres problèmes qui sont liés à tout ça. Ben alors, d'aucuns parlent parfois de la désignation de ces notamment des chefs des quartiers. Hein. Vous avez dans une commune des chefs des quartiers qui ne vivent pas hein, ou qui ne sont pas de natifs ou encore des gens qui résident dans la même commune. Ça fait déjà un problème aussi.
Oui, c'est ça le problème. Mais c'est ce que j'ai dit, qu'ils vivent ou qu'ils ne vivent pas dans la communauté. Quand ils sont désignés, c'est l'État qui les désigne. Nous n'allons pas nous mettre à faux contre cela pour le moment. Mais l'essentiel est qu'ils soient désignés, qu'ils soient du quartier ou en dehors du quartier, que nous puissions créer un climat de confiance entre cette autorité et les habitants. Les chefs de quartier, ça va encore, parce que la plupart sont des habitants des quartiers, mais les bourgmestres, beaucoup de bourgmestres dans des communes, vous allez voir un bourgmestre dans telle commune, il habite
Massine, par exemple.
Oui, il habite très loin. Oui, il habite très loin, et il y a des problèmes qu'il ne veut pas résoudre directement. Mais s'il y a une confiance entre cette autorité et sa population, qu'elle habite la commune ou pas, elle saura toujours régler les problèmes, parce que nous, notre rôle, c'est de renforcer, de privilégier la mise en place des cadres multi-acteurs participatifs où les problèmes peuvent être discutés. Les problèmes se discutent la journée et la gestion se fait la journée. Donc pendant la journée, quand le bourgmestre est là et quand toutes les autres autorités sont là, chefs de quartier, chefs de bureau et consorts, ils peuvent trouver des solutions et mettre en place des stratégies qui permettent de bien gérer la commune, à ce que la population participe, la population ait droit à l'information, qu'il y ait la transparence dans la gestion, dans la récolte des recettes et tout ça. C'est ça notre combat.
Alors, comment juger vous les propos de certains observateurs qui pensent que aujourd'hui la non-participation ou la non-implication des autorités locales, c'est ce qui serait notamment à la base de plusieurs conflits aussi dans des communautés et dans des cités.
Oui, le CELADEP est conscient de cela. Et c'est pour cela que j'ai dit, nous sommes en train de lancer ce processus qui commence par des processus pilotes ici à Kinshasa, dans la commune de Barumbu par exemple, pour renforcer des comités de quartier où les habitants des quartiers et les chefs de quartier se mettent en synergie pour résoudre des problèmes. Donc il faut que la confiance existe. Il faut que ces autorités-là, qui sont dans les quartiers, soient en confiance avec leur population. Et pas seulement ici, le CELADEP travaille sur ces questions, non pas seulement à Kinshasa, mais partout nous travaillons à travers les pays, là où, quand nous travaillons au site Kivu, quand nous travaillons dans la province du Bas-Congo et partout ailleurs, notre objectif c'est de renforcer l'autorité de l'État au niveau le plus bas pour qu'on sente qu'effectivement il existe une autorité qui est là et qui peut apporter des solutions. Le renforcement de l'autorité, ce n'est pas une autorité policière, non, c'est une autorité capable de traiter avec la population ses problèmes et d'apporter des solutions tant soit peu et être leur représentant au niveau le plus supérieur. Donc c'est ça un peu notre combat.
Voilà, mais il y a, avant d'accorder la parole, parce que c'est une émission des auditeurs, Maître Macha Kakia Lumbashi et Clément Kieta Mbujima et tant d'autres qui vont appeler à d'un moment à l'autre. Nous vous rappelons d'ailleurs, chers auditeurs, si vous souhaitez intervenir dans cette émission, de composer les 081-890-63-15 ou encore le 081-890-43-39 et vous avez également la possibilité de déposer vos commentaires sur notre page Facebook. Monsieur Dany, avant que nous accordions la parole à nos auditeurs qui sont déjà en ligne, il y a également ces problèmes de moyens aujourd'hui. C'est vrai qu'on parle de la décentralisation, mais encore faut-il que l'autorité centrale, l'État, puisse doter ces autorités locales de moyens suffisants pouvant leur permettre de gérer la cité, de gérer la communauté.
Oui, le problème des moyens existe, et ça nous le savons, le budget de l'État est trop faible et ne peut pas vraiment résoudre tous les problèmes. C'est comme ça que nous sommes aussi dans un processus, dans le cadre tout juste de cette démocratie au niveau de la base de la décentralisation qu'on sort, nous privilégions la notion, le concept du budget participatif. Il y a plusieurs associations de la société civile qui sont très bien impliquées dans le cadre du budget participatif et il travaille. Ça veut dire le budget participatif, c'est arriver à faire en sorte que les communautés connaissent très bien quels sont les défis, quels sont les moyens à mettre en œuvre pour le développement local, qu'ils regardent les moyens qui peuvent être à leur disposition au niveau des recettes que l'entité reçoit et aussi qu'est peut-être la part des communautés dans la mobilisation des moyens. La population peut contribuer, la population peut mobiliser des recettes à l'extérieur. Il y a des institutions ici telles que le Fonds social, BCECO et autres choses qui peuvent apporter des moyens et même de l'aide extérieure qui existe, nous pouvons toujours apporter des moyens. Mais les moyens ne peuvent arriver que quand les dialogues sont francs entre la communauté et l'autorité.
081-890-63-15 pour votre intervention en direct.
Radio Capi, un partenariat entre la mission des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo et la Fondation Hirondelle. Avec le soutien du gouvernement de la Belgique, des États-Unis, de la France, du Royaume-Uni, de la Suède et de la Suisse. Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Voilà, merci de votre fidélité à Radio Okapi et bienvenue à ceux qui à peine viennent de nous rejoindre. Maître Mashaka, vous êtes à Lubumbashi, bonjour.
Bonjour Monsieur JR, bonjour à l'invité et bonjour à tous les auditeurs de la Radio Okapi.
Maître Mashaka, vous avez la parole. Qu'est-ce que vous proposez pour renforcer les rôles des autorités locales dans la gestion de la communauté?
Merci beaucoup Monsieur JR de m'avoir accordé encore l'opportunité d'intervenir sur la chaîne de la population. Vous savez, Monsieur JR, l'administration est le poumon de bonne gouvernance dans tout pays, Monsieur JR. Mais vous savez, aujourd'hui, tout évolue dans notre pays. Mais nous nous retrouvons encore avec l'administration qui nous avait laissé, ou bien les circonscriptions nous laissaient avec par les Belges, au moment où la population s'épanouit du jour au jour. Les quartiers s'épanouissent du jour au jour. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe, Monsieur Gilles? Vous avez un quartier qui a une longue étendue, mais dirigée par un seul chef de quartier. Une commune qui est très répandue, mais dirigée par un seul bourgmestre, qui ne parvient même pas à contrôler tous les quatre coins de sa commune, Monsieur Gilles. Auparavant, moi, je voyais que les chefs de quartier, les bourgmestres, ce sont des gens qui étaient élus par la population locale, puisque et ce sont des gens qui sortaient de la base, puisqu'ils savent quand même les réalités des milieux. Aujourd'hui, vous allez voir quelqu'un, il n'a jamais été même chef d'avenir, même chef de quartier directement bourgmestre, c'est dit commune, monsieur Gilles. Comment est-ce que cette personne parviendra à s'en sortir et à connaître les difficultés que connaît cette commune-là. Aujourd'hui, monsieur, le système de commencer à gérer selon les consignes et selon les principes sortis de notre pays, monsieur. Ce que moi je peux demander, il faut que le système d'élection par la population locale de leurs dirigeants puisse revenir, puisque c'est le même dirigeant-là et les mêmes populations-là, quand ils voient que non, cette personne-là ne travaille pas comme il faut, ils sont en mesure de les mettre à côté et on met une autre personne. Il faut que notre gouvernement prenne les histoires au sérieux à partir du sommet jusqu'à la base, monsieur Gilles, puisque aujourd'hui, le chef de quartier ne fonctionne pas. Puisque vous allez trouver aujourd'hui, il n'y a même pas, auparavant, on voyait, il y avait des problèmes là, des salons organisés d'abord par les chefs de quartier. Et ils passent au contrôle. Il sait vérifier que non, dans tel avenir, il y a tel pont qui ne va pas, dans tel avenir, il y a les immondices à tel endroit qui jettent ces immondices-là, et qu'est-ce qu'il faut faire pour arrêter les histoires. Donc, il faut qu'on puisse revenir le système des élections par la population locale des dirigeants, et on commence à avoir quand même l'expérience des gens. Ce n'est pas seulement vous prenez quelqu'un qui n'a aucune expérience dans ce domaine-là, vous le donnez dans la responsabilité, puisqu'il fait partie de telles tendances politiques, de telles tendances tribales, ça, notre pays ne va pas évoluer, monsieur Chir.
Merci beaucoup, maître Mashaka. Nous retenons une chose, hein. Vous avez parlé de l'administration qui serait, selon vous, le poumon, d'ailleurs, de la bonne gouvernance. Et là, vous décriez le fait que l'organisation territoriale et administrative de la RDC date de l'époque coloniale et la désignation des autorités, des entités territoriales laisse à désirer. Et vous évoquez également la politisation de cette territoriale. Donc, vous aimeriez eh bien que pour qu'on puisse renforcer, au fait, les rôles des autorités locales, que tout cela puisse être amélioré. Merci beaucoup, maître Mashaka. Clément, vous êtes en Boujimaï. Bonjour, Clément.
Bonjour à l'invité.
Voilà, Clément, vous avez la parole.
Oui, je disais, parce que l'invité, quand je l'ai fait de l'entendre, il veut nous parler du développement au niveau local. Et ce qui est vrai est que quand on veut parler d'un développement, c'est-à-dire que nous devons épingler trois éléments. C'est-à-dire que le premier élément, il y a l'indépendance politique. Le deuxième élément, le choix révolutionnaire au niveau du gouvernement. Et le troisième élément, c'est la transformation à la base. Donc, la transformation à la base, c'est à la base que nous voyons les chefs de quartier, le bourgmestre, le commune et ainsi de suite. Alors, quand nous essayons un peu de voir ce développement au niveau local, donc au niveau de la base, sans pour autant épingler les deux autres principes pour le développement, c'est-à-dire que même au niveau local, ce développement sera impossible. Donc, il faudrait prendre ces éléments ensemble alors à ce moment-là, on peut entreprendre un développement durable qui commence au niveau de quartier, de bourgmestre, et ça va aller au-dessus. Mais si nous commençons seulement au niveau local, sans pour autant voir le sommet même, donc l'indépendance politique et les choix révolutionnaires de gouvernants, c'est-à-dire que nous allons bâcler le développement et ça n'ira pas loin. Alors, nous voyons un peu en France, en 1836 et 1936, vous verrez qu'il y avait des réformes agraires qui étaient prises au niveau national pour les populations locales. Les populations locales avaient trouvé que c'était sans objet ces réformes, mais par après, ils se sont rendus compte que la productivité est partie de 100% à 300%, de 300% à 320%, ainsi de suite, parce que le gouvernement avait pris la résolution sur la population, donc sur la base. Alors, le développement était possible. Pour ce moment, j'apprécie leurs initiatives, mais je voudrais qu'ils puissent parler des trois éléments qui cadrent du développement. Alors à ce moment-là, même cette transformation à la base, au niveau du chef de quartier et de bourgmestre, sera possible.
Donc pour vous, il n'est pas question de renverser la pyramide de l'autorité, hein, de l'État, parce qu'il faudrait que tout part d'en haut pour qu'on puisse descendre. Il ne faut pas qu'on puisse transformer la base aussi longtemps qu'au niveau du sommet, il y a déjà un problème. C'est ça.
Voilà.
Voilà. Alors vous avez même donné des exemples de la France et aussi d'autres exemples pour soutenir votre contribution. Merci beaucoup Clément d'avoir appelé. Nous prenons Grâce qui est à Kinshasa. Grâce, bonjour. Grâce, vous êtes avec nous ?
Oui, je suis avec vous, je vous écoute.
Voilà, vous avez suivi Maître Machaka tout à l'heure qui a parlé de l'administration qui est le poumon de la bonne gouvernance et Clément qui vient de développer trois principes de développement tout en insistant sur la transformation au sommet et non la transformation à la base comme démarche poursuivie par Senadep hein, qui tient à responsabiliser d'abord le chef des quartiers, la population soit sensibilisée pour arriver au fait à renforcer le rôle des autorités locales. Alors vous avez la parole. Quel est votre point de vue?
Oui, moi je voudrais juste m'atteler sur la liberté dont devait jouir tout administrateur des entités. Jusqu'à ce jour, messieurs les journalistes, chers auditeurs, l'organisation au niveau des entités décentralisées, telles que les cités, les communes, j'en passe, demeure calamiteuse en RDC. Du fait que les administrateurs, tous appartenant à une seule famille politique, qui est celle de la mouvance, et sont soumis à un seul mode de gestion, qui corrèle avec celui de leur autorité morale, qui est bien sûr le chef de l'État. Et ce mode de gestion, bien que mal qu'il soit, doit obligatoirement être respecté afin de satisfaire au désir du chef, grâce à qui on est là où on est. Le manque de liberté pour les administrateurs de mettre normalement en pratique toute leur expertise au service de leurs entités demeure les grands défis.
Grâce, je crois, si vous pouvez peut-être nous aider et aider d'autres auditeurs qui vont venir juste après vous. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous constatez au niveau des quartiers, là où vous êtes? Vous êtes à Kinshasa, par exemple, dans la ville province de Kinshasa, la province de Kinshasa qui a pratiquement le statut de province. Hein. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous constatez? Est-ce que les chefs de quartier jouent effectivement leur rôle ou bien il y a encore des défis à relever?
Il y a des très très grands défis à relever. Ils ont dans leur bouche les discours très, très propagandistes. C'est-à-dire, tous appartiennent à la famille politique du chef de l'État. Et tout ce qu'ils font doit cadrer avec ce que veut le parti. Donc, ils marchent dans le même ordre d'idée que le parti. Tout est pépérisé. Tout est de la mouvance.
Donc si je comprends bien, Grâce, vous souhaiterez que dans la langue, que le chef de quartier, comme le Senadep, est en train de mener des démarches de manière à ce qu'on puisse responsabiliser, disons, des gens intègres, des gens qui, en fait, qui peuvent véhiculer la bonne gouvernance, des gens qui peuvent aussi, avec un sens patriotique, amener quand même la bonne gestion de la cité, c'est ça?
C'est cela.
Merci beaucoup, Grâce, d'avoir appelé. Patient, vous êtes à Lubumbashi, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur le journaliste, c'est Patient Chitoba à Lubumbashi.
Voilà, que proposez-vous pour renforcer les rôles des autorités locales dans la gestion de la communauté?
Oui, monsieur Pierrot, je vais commencer par vous dire ceci. Moi, j'habite quartier Bongong ici à Lubumbashi, c'est dans la commune de Kapemba. La fois passée, quand j'essayais de demander le chef de quartier, il m'a dit qu'il ne joue pas son rôle. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas payé. Moi, je souhaiterais que l'État prenne en charge le chef de quartier, puisque je n'ai jamais trouvé un chef de quartier qui joue son rôle.
Merci beaucoup, patient. Rossi, vous êtes à Kikwit. Bonjour.
Bonjour Pierrot et bonjour à tous les autres.
C'est plutôt J.R. Lungembo qui est à l'antenne.
Ah, merci J.R.
Voilà, alors aussi vous avez la parole.
Merci, je commence par vous féliciter pour le choix de ce sujet. Je voudrais contribuer à ce niveau de débat. Je dirais que pour que les autorités des entités locales puissent réellement jouer leur rôle, moi j'estime que le point de départ, c'est la sélection. Quelles sont ces autorités qui sont à la tête des entités administratives? Ce sont des gens qui sont ramassés à gauche et à droite, qui n'ont pas de qualité, qui n'ont pas de niveau requis, et qui ne savent pas correctement qu'est-ce qu'ils doivent faire. Vous verrez des chefs de quartier qui se comportent en juge pour essayer un peu de rendre justice. Alors, finalement, si on va à la sensibilisation, ça serait un peu très, très dur et les gens ne risquent pas de comprendre. Je crois que l'idéal serait de rationaliser un peu la détection, savoir qui faut mettre à quel endroit pour que, concrètement, les autorités ou les chefs des entités locales puissent réellement exercer leur mission. Voilà un peu ma contribution.
081-890-6315.
Allô?
Parole aux auditeurs.
Voilà, nous revenons à vous, Dani Singoma, vous avez suivi les uns et les autres. Hein. Alors, est-ce qu'on peut ramasser rapidement les interventions de tout à l'heure?
Ok, merci beaucoup. Je remercie tous les auditeurs et je les salue tous. Les questions sont multiples, mais se croisent entre elles. La question des élections des chefs, que ce soit les chefs des quartiers ou les bourgmestres, est une question principale et qui fait le souci effectivement du Senadep en particulier et de la société civile congolaise en général. Nous militons tous, il y a des cadres qui existent pour ça, où nous militons vraiment pour que les élections locales aient lieu. Nous savons tous que sans élections locales, il n'y aura pas d'autorité voulue par la population, il n'y aura pas ces chefs-là qui sont désignés directement par la population. Mais n'oublions pas une chose, les élections ne sont pas une panacée. Nous pouvons aller aux élections. Pour ceux qui seront bien élus et autre chose, ça sera une bonne chose. Mais les conflits des élections peuvent toujours exister. On aura des chefs qui auront triché, etc. Mais aussi, nous pouvons avoir des partis qui peuvent faire une bonne propagande, une bonne préparation et avoir la majorité d'autorités locales. Et ça risquerait d'être la même chose. Mais la différence serait que ces autorités sauront que si nous ne rendons pas compte effectivement à la population, demain, ils peuvent nous désavouer. N'oublions pas qu'au niveau des communes, par exemple, avec les nouvelles élections qui auront lieu, ça sera des élections indirectes, comme ça se passe au niveau provincial. C'est qu'il y aura des élections. Nous allons choisir des conseillers municipaux, et les conseillers municipaux vont choisir les bourgmestres. Et il y aura tout ce qu'il y aura. Donc, il faut, pour le moment, commencer à créer des alternatives. Et l'alternative la plus importante, c'est l'organisation de la population à la base. Il faut que la population actuellement soit organisée. C'est comme ça que nous privilégions l'organisation des comités de quartier tout d'abord, qui sont des espaces à travers lesquels les gens se reconnaissent comme habitants d'un quartier, ils connaissent les problèmes réels de leur quartier, ne cherchent pas ce qui dépasse le niveau de leur quartier, mais cherchent des solutions. Ils agissent localement tout en pensant globalement, bien sûr. Mais aussi renforcer les associations citoyennes qui existent au niveau de ces quartiers pour que ces associations jouent leur rôle d'interpellation et autre chose, et aussi créer des cadres de dialogue multi-acteurs où nous retrouvons les habitants, les administratifs, les opérateurs économiques et tout ça, au niveau d'un quartier, au niveau de la commune, et beaucoup de problèmes peuvent être résolus, comme les problèmes de l'administration. L'administration, bien sûr, elle est défectueuse, mais
nous pouvons avoir des alternatives, comme je l'ai dit, quand nous sommes organisés, quand nous avons un cadre. Prenons l'exemple de la Libye, même si la Libye n'est pas le modèle parfait, mais en Libye, il n'existait presque pas d'administration. Mais c'est au niveau des quartiers, au niveau des rues, que tout s'est passé. Voyons la Tanzanie et d'autres pays, ils ont agi comme ça. En organisant au niveau de la base, il y a plus d'autorité de l'État et il y a plus de confiance de la population. Mais quand, comme les uns les autres lisent, quand tout est noyauté par une force politique ou autre chose, là, les dangers arrivent. La pyramide, quand on parle de la pyramide qui est renversée, parce que nous voulons commencer par nous organiser au niveau de la base, non, la pyramide n'est pas renversée. Effectivement, peut-être qu'il faut renverser cette pyramide. Tout doit se construire au niveau de la base. Aujourd'hui, en France et partout ailleurs, les chefs qui sont au pouvoir, ils viennent avec des programmes, les programmes de leur parti. Et les programmes de leur parti sont confectionnés au niveau de la base. Tout s'organise d'abord au niveau des cellules, au niveau des quartiers, au niveau des communes, au niveau des régions. Et enfin, au niveau du pays.
Mais
et
ça, tout vient dans le contexte actuel, le contexte
dans notre contexte politique, on ne peut pas créer un sommet. On ne peut pas créer un sommet correct si la base ne s'organise pas.
Mais de quoi pense que maintenant, s'il faut transformer cette base, ça va encore prendre du temps.
On transforme. Non, ça ne prend pas du temps. C'est la vie. Nous n'allons pas croiser les bras parce que nous n'avons pas encore une autorité qui réponde miraculeusement aux besoins de la population. Mais si nous nous organisons, si les autorités sont l'émanation de ce qui se fait à la base, si nous avons des personnes qui sont dans ces comités de quartier, qui ont l'esprit de solidarité, qui ont l'esprit d'entreprise, qui ont l'esprit de la gouvernance, ce sont ces gens que nous allons plébisciter pour les élections. Nous allons voter les gens que nous connaissons. Quand quelqu'un est bien connu dans sa commune, il peut bien passer député provincial.
Parce que le souci d'un auditeur tout à l'heure, il parlait de quand nous vivons dans un contexte où les consignes priment, les mots d'ordre, c'est difficile quand même aux autorités locales de d'évoluer.
Les consignes priment effectivement parce qu'il n'y a pas ces élections locales comme je l'ai dit. Mais même si on nous amenait les élections locales aujourd'hui et qu'elles ne sont pas organisées, nous allons voter tout simplement les bourgmestres parce que nous les connaissons, parce qu'il a une certaine influence, il y a les Koulouna qui le soutiennent et autre chose, et il passe, il y a des groupes artistiques et consorts, il peut passer. Mais si nous sommes organisés, nous connaissons, nous commençons déjà à étudier quel est le profil des personnes qui peuvent bien nous représenter à un certain niveau, nous, au moment voulu, nous allons le faire. Mais avant que nous n'arrivions là-bas, nous n'allons pas croiser les bras. Avant que nous arrivions à ces élections, que nous devons commencer à réclamer à corps et à cri, nous devons être des groupes de pression qui s'organisent au niveau des quartiers, au niveau des communes, qui faisons monter la voix en symbiose au niveau provincial et au niveau national, et nous allons obtenir les élections locales. Aujourd'hui, les autorités ne veulent pas, non pas simplement parce qu'ils n'ont pas des moyens financiers pour organiser ces élections locales, mais politiquement, ça les arrange. Parce que s'ils contrôlent toute la territoriale, c'est bon. D'une certaine façon, ça peut être positif par rapport à tout ce que nous connaissons dans certains coins du pays avec la guerre et tout, il faut contrôler tout cela. Mais d'une autre part, nous sommes en train de casser le processus démocratique qui était mis en place. Le processus démocratique veut que ces élections aillent jusqu'au niveau le plus bas. Ça devait commencer d'ailleurs par les élections locales. On a renversé la tendance à ce niveau-là. On a fait ce que notre ami nous dit de commencer par les sommets. On a fait les élections présidentielles et les élections législatives, mais aujourd'hui nous sommes bloqués parce que nous n'avons pas commencé au niveau de la base. Donc, l'autorité des chefs de quartier sera renforcée par les élections ou des bourgmestres par ces élections-là, mais ils ne peuvent être renforcés que si nous sommes organisés aujourd'hui. Mais ne vous y trompez pas. Bien sûr, on dit que les chefs de quartier ne font pas leur travail parce qu'ils sont mal rémunérés et qu'on sort.
Voilà, je suis d'accord. C'est passé à parler de ça.
Je suis d'accord.
Même si on transforme la base aujourd'hui, on prépare la base, mais avec quel salaire?
Je suis d'accord. Et tout ça, c'est un problème d'homme. Parce que les chefs de quartier, bien sûr, ils n'ont pas les fonds là qu'ils reçoivent de l'État, mais plusieurs chefs de quartier se distinguent quand il s'agit de problèmes parcellaires. Ça, on le savons. Quand il s'agit de vendre des parcelles et autre chose, là,
il y a même une tarification.
Donc, il existe un peu d'argent là-bas. Et l'alternative que nous créons pour le mettre en contact avec la population au sein d'un cadre, ensemble, c'est à ce moment-là que nous allons dialoguer pour savoir qu'est-ce que vous percevez effectivement et qu'est-ce que vous faites de cet argent et que tout soit formel et structurel. Mais si nous restons comme ça, allez voir, parce que le problème aujourd'hui avec nos autorités locales, c'est qu'ils ont peur de cette population qui ne représente pas. Et en continuant à les faire peur, nous continuons à les faire fuir plus loin de nous et à les laisser dans leur coin. Au contraire, nous devons les rassurer, les sécuriser. Pour bien les avoir, nous devons les mettre en confiance, les attirer vers nous et les convaincre à partir des cas dans lesquels nous sommes plus majoritaires.
Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez peut-être eu à mener des enquêtes, est-ce qu'il y a vraiment une bonne collaboration entre le sommet et la base, quand je parle de l'État, et au niveau, parce que l'autorité locale représente aussi l'État, au niveau le plus bas, est-ce qu'il y a vraiment cette collaboration-là? Parce Parce que si nous citons, par exemple, les cas, la formation en notre possession, la vente, par exemple, de terrains Pelz à l'époque, la cour à Lingwala, qui, au fait, fait couler beaucoup d'encre et de salive ces derniers temps, parce qu'on a dit, on a vendu, mais on pose la question, la population, les administrés posent la question au chef de quartier, le chef de quartier n'a aucune information, le chef de quartier pose la question au bourgmestre de Lingwala, le bourgmestre de la bourgmestre dit, il n'a pas l'information, mais bon, l'exécutif a pris une décision comme ça, et puis on a vendu un terrain.
Oui, le télescopage existe à plusieurs niveaux, ça, nous le connaissons, et c'est le problème des communications. C'est ce que j'ai dit. Aujourd'hui, cette communication ne peut être effective que si les gens sont organisés. Et puis, il y a des choses qui dépassent la compétence des chefs de quartier, des bourgmestres et autres choses. Mais quand ils sont en relation directe avec la population, dans lesquels ils mettent des mécanismes de communication et consorts, c'est cette population qui va les défendre. Mais aujourd'hui, tout le monde est dépourvu parce qu'il n'y a pas, des liens forts entre les administratifs et les administrés, mis en place par ces alternatives que nous sommes en train de citer, il y aura toujours cette rupture-là et l'information nous passe au-dessus de la tête. Quand c'est passé à la radio, à la télévision, on pense que tout le monde a compris.
Ça soulève le tout.
Oui, mais je voulais insister sur quelque chose. Quelqu'un a dit, les chefs de quartier ou les dirigeants au niveau des communes sont ramassés, ils n'ont pas de niveau.
Non,
j'aimerais qu'ils rectifient au moins, parce que ce sont nos parents, nos oncles, nos tantes, nos frères. Donc, on ne peut pas dire qu'ils sont ramassés, mais ils sont mis devant des faits. Ils ont été désignés par des personnes à qui ils doivent rendre plus compte. Ils sont redevables vis-à-vis d'eux. Et nous devons créer notre système de redevabilité qui les met dans une condition où ils doivent être redevables. Et cette confiance se crée, et ça se crée au niveau de la base. On peut le faire au niveau le plus haut, bien sûr, il y a le Parlement qui est là. Ils sont très très éloignés de la population parce qu'ils sont dans un cadre plus supérieur. On ne va pas demander à un président de la République de connaître tous les problèmes de tous les quartiers, de tous les villages de la RDC.
Ça
il peut les connaître à travers des mécanismes qui permettent de faire remonter l'information à son niveau.
Voilà, on va rejoindre encore une deuxième série des auditeurs. Il y a Désiré qui est à Kinshasa, Étienne à Guémena et Aloïs à Kananga. Désiré, vous êtes avec nous, bonjour. Désiré, vous êtes à Kinshasa, bonjour. Voilà, on prend plutôt Étienne qui est à Guémena. Étienne, vous êtes avec nous?
Ah oui, je suis en ligne, monsieur le journaliste.
Vous avez la parole, Étienne.
Ok, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je salue l'invité et tous les auditeurs qui nous suivent.
Oui, vous avez la parole, Étienne, allez-y.
Ok. Je suis vraiment avec beaucoup d'intérêt les interventions de notre invité. Je suis très content quand l'invité reconnaît qu'aujourd'hui au Congo, les autorités locales ne jouent pas pleinement leur rôle. Et ça, c'est vrai. Aujourd'hui, il est reconnu qu'au niveau de quartier, au niveau des chefs de riz, ils sont restés en quelque sorte comme des étiquettes. Et ils subissent que de pression et des injonctions qui viennent d'en haut par les plus grandes autorités. Vous savez, monsieur le journaliste, dans un pays qui se respecte et dans un pays qui veut se développer, dans l'administration, tout doit partir de la base. Alors, si la base est très bien soignée, comme a dit l'invité, comme a dit certains intervenants, là, si la base est très bien soignée, donc on peut bien aller et puis jusqu'à atteindre le sommet. Mais aujourd'hui, comme on a dit, on a commencé les élections d'abord. D'en haut, il y a eu les élections présidentielles, des députés nationaux. Et voilà que maintenant, au niveau de la base, il se pose de vrais problèmes. Parce que ceux qui sont à la base sont en train de subir les injonctions et les injonctions des autorités d'en haut. Donc, vous comprendrez que, monsieur le journaliste, Ça donne une sorte de confusion parce qu'au lieu que la base puisse avoir son plan d'action, puisque la base puisse avoir son plan de développement, la base ne fait que subir ce que font les plus grandes autorités. Ici à Guémena, par exemple, vous comprendrez que Guémena a 13 quartiers. Mais dans les 13 quartiers, ceux qui gèrent là, ils ne sont pas tellement. Donc leur autorité ne se fait pas tellement sensible. Pourquoi? Parce qu'ils sont là, il ne faut que subir les injonctions des autorités qui sont plus déplacées. Donc moi je pense qu'on doit tout faire pour que les élections locales, provinciales puissent s'organiser et ça permettrait à ce qu'au niveau de la base, on puisse avoir des autorités locales élues qui gagnent la confiance de la population et on va au niveau provincial et progressivement, on aura une confiance totale des dirigeants. Mais pendant que ces élections n'ont pas eu lieu et qu'on a des gens parachutés qui sont d'en haut mais qui pour des injonctions qui font de pression sur ceux qui sont dans la base, rien ne marchera et le Congo ne pourra qu'évoluer dans le désordre comme nous sommes en train de l'assister. C'est pourquoi vous verrez par exemple, monsieur le journaliste, partout en passe, on a dit que le Congo a un système de pyramide renversé. Mais ça, les élections nationales ont été organisées. Là, il se pose un problème. Moi, je dis que c'est la marque de volonté de nos autorités. Parce que comment voulez-vous que la Constitution a garanti à ce que, après les élections, au plus grand niveau, on devrait commencer aussi les élections au niveau de la base. Mais jusque-là, puisqu'il n'y a pas volonté, puisqu'on cherche à peut-être implanter ces les obédiences politiques dans tout pour que les plus petits puissent subir des conséquences, on ne peut plus organiser les élections locales. Donc, c'est pourquoi vous verrez que rien ne marche et rien ne marchera si les élections locales, provinciales n'ont pas eu lieu. Vous, comme on pourra comprendre, monsieur le journaliste, qu'aujourd'hui, le Sénat est en train d'évoluer dans l'illégalité. Les assemblées provinciales, les députés provinciaux évoluent dans l'illégalité totale. Pendant que ils sont là, bouffent l'argent de l'État dans l'illégalité. Pendant que la Constitution garantit qu'on ne peut pas dépasser les mandats et faire tout ce qu'on fait de faire. Et tout cela se passe parce qu'il y a des intérêts politiques.
Ce n'est peut-être pas le débat.
Que vraiment les choses se fassent de cette façon-là, qu'on puisse organiser les élections locales provinciales, ça nous aiderait, monsieur le journaliste, à ce que le Congo puisse revêtir vraiment la peau d'un pays souverain, d'un pays digne et un pays démocratique.
Merci beaucoup, Étienne, d'avoir appelé de Guémena dans la province de l'Équateur. Aloïs, vous êtes à Kananga. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste. Je salue également tous les auditeurs de la radio Okapi en passant par le l'éditeur.
Oui, alors vous avez la parole pour proposer ce qu'on doit faire pour renforcer le rôle des autorités locales dans la gestion de la communauté.
Merci de la parole, monsieur J.R. Lungembo, et merci beaucoup du choix porté sur ce thème, car il est vraiment établi qu'un vrai développement est celui qui part de la base jusqu'au sommet. Si aujourd'hui nous nous demandons comment renforcer les rôles des autorités locales dans le développement de leurs entités, je crois pour ma part apporter une modeste contribution que voici. J'épouse l'idée de l'invité quand il indique qu'il y a une large disparité entre ces autorités et la population. C'est pourquoi je voudrais proposer ce qui suit. Il faut recréer et renforcer un climat de confiance, d'une part, entre ces autorités elles-mêmes, qui sont caractérisées par des conflits et leur population, donc les populations de leurs juridictions. Il faut recevoir ou revoir le mode d'accession des autorités à leurs différents postes. Il faut prendre comme condition sine qua non pour accéder à ces postes un seul élément qui est la méritocratie. J'insiste sur ce. La méritocratie doit nous aider à placer celui qu'il faut à la place qu'il faut. Au cas où cela est déjà fait, monsieur Gier, je souhaite compléter quelques points non négligeables, à savoir l'outillage. Parce que on ne doit pas oublier que les autorités locales que nous avons sont des moyens physiques. Mais plutôt, dès que ces moyens physiques existent et que ces moyens physiques n'ont pas été dotés des moyens matériels, des moyens financiers, je trouve qu'ils auront vraiment des difficultés, même si la personne est capable de faire quoi que ce soit, mais elle aura, je dirais, beaucoup de difficultés pour pouvoir répondre à ce à quoi il a été placé là-bas, parce qu'il n'a pas de moyens physiques et matériels. Je voudrais aussi parler d'un point qui n'est pas à négliger, le recyclage. Certaines de ces autorités, à des différents niveaux, ne savent pas qu'est-ce que tel doit faire à tel endroit où il est placé comme étant autorité. C'est pourquoi si le recyclage est chaque fois organisé pour au bénéfice de ces autorités, je trouve que c'est vraiment une bonne chose. Enfin, je vais aussi dire un mot sur la volonté politique qui est un poumon pour servir bonnement. Parce qu'il y a un adage qui dit qu'on est tenu pour chef si ses paroles et ses actes sont ceux d'un sujet. Voilà pourquoi je conseille à ces autorités et à tous celles qui prochainement deviendront des autorités de bien vouloir servir la population en s'écartant du principe de la crainte révérentielle et de l'abus du pouvoir. De son côté, parce que la responsabilité doit être partagée, la population doit avoir l'amour de son milieu pour aider les autorités à bien pouvoir jouer leur rôle, parce qu'à elles seules, j'espère qu'elles ne peuvent rien faire. Merci.
Merci beaucoup, Aloïs, d'avoir appelé à Kananga, au Kasaï occidental. Joseph, vous êtes à Bukavu. Bonjour, Joseph.
Oui, bonjour, monsieur, de m'avoir accordé encore la parole. Je pense que le sujet est tellement pertinent, à tel point que la contribution de tout et chacun est meilleure. Je vous l'ai dit à Bukavu, aujourd'hui la ville de Bukavu compte 1 million d'habitants. Alors, concernant le sujet d'aujourd'hui, on a à peine des 3 communes, mais la commune la plus peuplée, c'est la commune d'Ivanda. Je vous l'ai dit que les chefs de quartier, les chefs d'avenir, jusqu'à présent, je ne sais pas si l'invité est au courant que les chefs d'avenir ne sont pas payés. Moi, je ne partage pas l'idée qu'il a dit que le gouvernement n'a pas assez de moyens pour payer ces gens. Or, si le pays marche aujourd'hui, et s'il y a tant de choses qui tournent dans différents pays, c'est grâce aux chefs d'avenir, aux chefs de quartier, puisque ce sont eux qui sont tout près de la population. Alors, si vous ne payez pas ces gens, vous voyez que les choses bâclent dans tous les coins. Or, moi, je pense qu'il y a la discrimination au salaire. Si vous payez quelqu'un 5 000 $, et puis lui aussi, l'autre travaille du 1er au 30, vous lui donnez 1 $. Est-ce que vous allez dire que le pays n'a pas assez de moyens? Et que donc, dans ces cas-là, il y a toujours assez de complications. Aujourd'hui, à Bukavu, il y a assez d'érosion. Moi, je vous parle de la fois passée au marché de Kadutu, il y a eu à peine des 3 morts à cause de l'érosion, puisqu'il y a des constructions anarchiques. Quand les chefs de quartier, les chefs d'avenir ne sont pas payés, alors ils cherchent les moyens propices pour gagner quelque chose. Alors, de ma part, je pense que le gouvernement pourrait mettre tout en charge pour motiver ces gens, puisque ce sont ces gens-là qui sont tout près de la population. Alors, il y a assez de doléances. Moi, je vous l'ai dit que mon papa fit le chef d'avenir, mais il y avait toujours des problèmes, à tel point qu'il n'était pas motivé, n'était pas payé. Il a pu démissionner, puisqu'absolument, il ne gagnait absolument rien, il perdait seulement le temps. Alors, je pense que le gouvernement pourrait regarder qu'est-ce qu'il peut faire pour ces gens-là, à tel point qu'ils fonctionnent. Et pour terminer, je voulais dire que aujourd'hui, les chefs de quartier, ou bien presque tous les dirigeants sont les bureaucrates. Avec ce système-là, tout ne peut pas fonctionner. Or, les chefs d'avenir, les bourgoumestres, ils devraient sillonner dans tous les quartiers, dans tous les coins pour regarder comment est-ce que le peuple vit. Mais malheureusement, ce sont les bureaucrates, ils sont là, ils signent, ils arrivent au bureau même 12h, 13h. Cela ne peut pas marcher, et c'est pour ça qu'il y a des problèmes. Merci.
Merci beaucoup, Joseph. Jean-Claude, vous êtes à Lubumbashi, nous vous demandons de garder la ligne. On va vous accorder la parole tout à l'heure, le temps de revenir à notre invité pour faire le point sur toutes les interventions de tout à l'heure. 081-890-6315.
Ouvrez l'agenda culturel tous les jours. Les concerts à ne pas rater, les nouveaux disques, peintures ou photos, les expositions à voir. Les artistes ont leur rendez-vous sur Radio Okapi. La culture congolaise est bien vivante, nous la mettons en valeur. L'agenda culturel tous les jours à 6h20, 8h15 et 14h10.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Voilà, nous revenons à vous, Dany Singoma. Vous avez suivi les uns les autres. Si rapidement, on peut répondre quand même à leurs préoccupations.
En tout cas, merci beaucoup. Je vois que ça devient de plus en plus sérieux et que la question intéresse beaucoup des gens. Je suis tout à fait d'accord avec tout ce que tout le monde dit. Notre ami de Bukavu qui dit que j'ai dit que le gouvernement n'a pas de moyens. Non, je ne fais pas l'avocat du gouvernement. Mais tout simplement, je constate que le budget du gouvernement est trop faible. Mais aussi, nous avons des gouvernements provinciaux qui doivent s'occuper de ces problèmes-là. Mais comme j'ai dit, s'ils ne sont pas organisés, si nous n'avons pas un œil sur les recettes de l'État et sur leur destination, nous ne savons pas aussi comment fixer les salaires de ces gens-là, des chefs de quartier, des chefs de...
Oui, parce qu'entre nous soit dit, il y a un principe, la vertu marche toujours avec le bien-être.
Oui, oui, je suis tout à fait d'accord. Et c'est pour cela que nous encore, comme je dis, au niveau du SENADEB, nous insistons et nous donnons un conseil. Nous n'allons pas faire tout le travail. Mais que l'ensemble d'acteurs, à leur niveau, qu'ils soient associatifs ou non associatifs, mais qui sont épris de cette volonté du développement social au niveau de la base, nous les encourageons, nous les exhortons à mettre en place ces cadres de dialogue. Ça peut se faire, un habitant dans un quartier peut convoquer les autres et mettre en place un comité de quartier. Et ce comité de quartier va commencer à se réunir, ils vont commencer à réfléchir sur les problèmes de développement local et les associations qui existent, les ONG qui existent peuvent les aider, bien sûr, à aller de l'avant. Donc j'ai dit qu'il faut mettre en place des cas de dialogue, il faut renforcer des comités de quartier. S'ils existent, il faut en créer. Nous avons l'exemple, par exemple, du Canada où vraiment les comités de quartier fonctionnent très très bien parce que beaucoup d'habitants se donnent cette peine de s'organiser et de pouvoir créer la solidarité, les dialogues et renforcer. Parce que la démocratie ne commence qu'au niveau de la base. L'expérience de la démocratie s'est faite au niveau des quartiers. Dès que nous avons ces petits comités et qu'on sait bien les gérer, on sait bien prendre, donner la parole, distribuer la parole, on sait se remplacer, changer de mandat et qu'on sort, on pourra bien gérer à l'avenir. Il faut reconnaître les compétences locales. Il faut reconnaître que les chefs de quartier, que tous ces gens qui sont là dans nos quartiers connaissent bien leur milieu, que ce sont eux qui ont les secrets de leur milieu, il faut les valoriser. Et on les valorise à travers des mécanismes comme ça que nous pouvons mettre en place. Il faut privilégier le budget participatif comme nous l'avons dit. Il faut que nous, au niveau de nos quartiers, au niveau de nos communes, nous puissions savoir combien entre dans la caisse de l'État à tous les niveaux, comment ces fonds sont utilisés, leur destination, et voir s'ils sont suffisants ou pas, et voir s'il n'y a pas moyen d'apporter des compléments. Et les compléments, comme je l'ai dit, peuvent être apportés de plusieurs façons. Nous devons raisonner global tout en agissant local. Ça veut dire que nous ne pouvons pas rester figés à la simple idée que notre quartier ou notre commune ou notre pays suffit. Nous sommes dans un monde, nous sommes dans la période de la mondialisation, nous sommes dans un monde globalisé et nous ne sommes pas seuls. Ce que nous sommes en train de vivre dans nos quartiers, peut-être qu'ils existent ailleurs et que les gens ont trouvé des alternatives, d'autres solutions. Ça veut dire que nous devons chercher les expériences qui se passent ailleurs. Nous avons la malchance ici parce que nous n'avons pas des autorités élues, alors qu'il existe des cadres au niveau international où nous retrouvons des assemblées des élus, des municipalités et consorts, mais les nôtres ne savent pas y participer parce qu'ils ne sont pas élus. Mais nous pouvons trouver toujours des alternatives. Il existe par exemple des jumelages qui peuvent être faits entre des villes, entre des quartier. Pas simplement au niveau international, même au niveau local. On peut jumeler un quartier de Bukavu avec un quartier de Kinshasa, un quartier de Kananga ou de Gemena avec un quartier de Lubumbashi ou de je ne sais où, de Boma. Et à ce moment-là, ils peuvent avoir des échanges entre eux. Et aussi, les jumelages au niveau international peuvent nous aider dans beaucoup de choses. Nous devons aussi imaginer comment valoriser nos quartiers. Comment valoriser? Ça veut dire que nous devons aimer nos quartiers, faire en sorte que les choses se passent bien. Vous imaginez à Kinshasa, même ici à Kinshasa, il y a beaucoup de quartiers qui n'ont pas de bureaux de quartier. Mais nous les habitants, si nous ne sommes pas organisés au niveau de la base, nous pouvons dire, ok, nous allons mettre en place un bureau de quartier. Et avec notre bureau de quartier, nous allons donner le pouvoir à notre quartier, nous allons aimer notre chef de quartier, nous allons le renforcer pour lui montrer qu'il a le pouvoir, et ici chez nous, nous l'aimons. Même s'il a été imposé par d'autres gens, il se retrouvera dans un système où il ne sait pas manœuvrer autrement que ce qui est fait. Et puis le chef de quartier, il a des injonctions qui
reçoivent beaucoup mettre. Parce qu'aujourd'hui, ils sont tous, ils font face à cette réalité. Ils ont ils sont tous donc au fait victimes de la crainte révérentielle. Il y a un auditeur qui l'a dit, nous sommes redevables, c'est le bourgmestre est là, si j'ai fait ceci, le bourgmestre, un matin il peut se réveiller, il change de chef de quartier, donc moi je risque d'être mis de côté. Donc,
le quartier n'est qu'une entité, cette peur, là. Le quartier n'est qu'une entité qui ne doit pas être isolée. Si nous faisons le travail dans un seul quartier, alors qu'il existe plusieurs quartiers, nous allons nous retrouver devant ces blocages. Parce que ce quartier sera bien, tout va marcher, nous aurons un cas de dialogue, nous aurons une bonne cohabitation entre les chefs de quartier et ses habitants, mais nous sommes isolés parce que nous sommes seuls. Mais si l'expérience est démultipliée, dans une commune, tous les quartiers s'organisent, chaque quartier s'organise à sa façon, ils se rassemblent, comme c'est ça l'expérience que nous sommes en train de faire, à mettre en place un comité qui réunit tous les comités de quartier pour en faire un comité fédérateur de tous les quartiers.
Ça pourrait renforcer.
Ça renforce, et à ce moment-là, nous sommes en rapport de force avec les bourgmestres.
Voilà, Dany, on va quand même lire quelques lettres, disons des messages de nos internautes, avant de prendre cette troisième et dernière série des auditeurs. Gaston, vous êtes à Kinshasa, en tout cas, restez en ligne, et on va vous accorder la parole tout à l'heure. Jean-Claude également, vous êtes à Lubumbashi et Richard à Kinshasa. Bien fait, Kataliwa nous a écrit, il dit ceci, l'État congolais devrait organiser rapidement et le plus tôt possible les élections locales, municipales, pour que les autorités sachent qu'elles ont un mandat du peuple. Fiston Kadiata Bégué à Kananga dit, les autorités locales sont confrontées à plusieurs difficultés liées notamment à ce manque de collaboration avec leurs dirigeants. Justin Ngakuiraki, depuis Butembo, pour que nos entités puissent se développer, il faut que l'État congolais mette les moyens nécessaires pour pallier aux différentes difficultés de nos mairies et également de nos districts. Dieudonné Balike à Bukavu, comment peut-on espérer avoir de l'ordre dans une jungle? Les autorités locales ne font qu'exécuter l'ordre qui vient du sommet. Baraguira, janvier, qu'il soit en mesure disons que les autorités soient en mesure de connaître le coin et le recoin de leurs entités de gestion et non s'amuser avec des rapports inutiles, voilà, qui au fait ne donnent pas, ne peuvent pas profiter aux populations. Blanchard Clément Kayembe à Kinshasa, pour réussir à ce but, il faut procéder à l'organisation de quelques séances de formation sur la gestion des communautés avec les autorités locales. Voilà, on va continuer avec d'autres, mais attendant, vous pouvez réagir par rapport à, disons, message des internautes.
Ok, merci beaucoup de tous ces messages qui aussi convergent. Les élections locales, comme je l'ai dit, vraiment c'est un souci et nous devons lutter pour que les élections locales aient lieu. Nous devons, à travers les mécanismes que nous sommes en train de mettre en place, crier. Nous devons crier à notre serein pour qu'on voie que nous voulons les élections locales. Et aussi proposer des alternatives. Si l'État n'a pas dit qu'il n'a pas de moyens pour organiser ces élections locales. Parce que les élections locales, il ne faut pas les confondre. Il ne faut pas se limiter aux élections provinciales. Il faut que nous descendons jusqu'au niveau le plus bas. Aujourd'hui, on va organiser les élections provinciales, mais il faut qu'on aille vraiment jusqu'au niveau local, le plus local. Et à ce moment-là, si nous, nous pouvons proposer des alternatives, si nous sommes organisés, nous pouvons dire, voici ce que nous proposons. Est-ce que nous allons faire un franc congolais pour les élections ou 100 francs congolais pour les élections et tout le monde peut contribuer pour trouver cet argent.
Comment s'organiser, avant que vous poursuivez, comment s'organiser, si vous pouvez nous faire une idée, hein, pour nous mettre un peu tous au même niveau, comment s'organise la territoriale et l'administration en RDC, la hiérarchisation? On commence par les provinces, il y a la mairie.
La ville, mais nous avons au niveau urbain, nous avons la ville, nous avons les communes et nous avons les quartiers. Mais au niveau provincial, nous avons d'une part les villes, nous avons d'autre part des districts, nous avons des territoires, nous avons des territoires en milieu rural, mais nous avons des communes au niveau des quartiers, les territoires,
les chefferies,
les villages.
Voilà. Donc, alors nous avons Gaston qui est en ligne, qui va attendre un tout petit peu, et Jean-Claude également. Vous aviez un élément à ajouter, Dany, par rapport aux interventions de la deuxième série là?
Bon, parce qu'il parle il y a un auditeur qui parle d'organiser la population, de former la population. Je pense que c'est ça le rôle que nous jouons tous les jours. On ne peut pas former toute la population d'un seul coup, mais on les forme à travers des cadres organisés. Il faut que la population s'organise en association, en comité de quartier qu'on sort, et c'est à travers ces cadres-là que nous procédons des formations, mais aussi les CNADEP, comme toutes les autres organisations de la société civile aussi, privilégient des moments comme des forums sociaux, qui sont des moments de rencontres, de convergence entre tout le monde pour essayer de s'informer sur
quelle est l'approche que vous utilisez pour cette opération de sensibilisation?
L'approche que nous utilisons, c'est que nous avons un programme au niveau de notre organisation, et ce programme, c'est le programme de développement communautaire qui intègre cette approche de renforcement de la société civile au niveau de la base.
Donc vous faites des porte-à-porte?
Le CNADEP n'agit pas directement sur terrain. Le CNADEP agit à travers ses partenaires à la base. Ça veut dire que le CNADEP identifie dans un milieu les partenaires associatifs qui puissent exister. À travers ses partenaires associatifs, il va à la rencontre de la population. Ce sont ces gens, ces communautés organisées en association qui sont nos interlocuteurs, parce que nous voyons que la population s'organise à travers ces comités. Mais aussi, au-delà des associations, nous privilégions aujourd'hui, avec les mêmes associations que nous accompagnons, la mise en place de ces quartiers, de ces comités de quartiers, qui deviennent des espaces où la population elle-même se prend en charge. Ce n'est pas au CNADEP de descendre dans un quartier, de faire du porte-à-porte, de dire aux gens ce qu'ils veulent. Non, nous identifions nos partenaires au niveau de la base, nous renforçons ces partenaires, afin qu'ils soient des véritables canaux par lesquels la population s'exprime. Et ces partenaires à la base sont renforcés sur le plan méthodologique, et sur le plan sur le plan d'analyse et sur le plan financier aussi, pour qu'ils puissent arriver à être des véritables citoyens qui s'organisent et qui canalisent les aspirations de la population, qui mènent d'actions, des plaidoyers pour l'eau, pour l'assainissement, pour l'espace public. Et c'est ça un peu le travail que nous faisons. Donc il faut une organisation à la base plus forte à travers le monde associatif.
Voilà, nous allons prendre Jean-Claude qui est à Lubumbashi. Jean-Claude, vous êtes avec nous, bonjour. Jean-Claude, vous êtes avec nous? Oui, Jean-Claude, parlez un peu fort, s'il vous plaît.
Oui, je disais bonjour à tout le monde, monsieur le journaliste.
Oui, vous avez la parole.
Oui, je voudrais intervenir. Il est vrai que notre invité a fait vraiment beaucoup de démonstrations et il fait vraiment preuve de la connaissance en cette matière. Mais moi, je voudrais juste épingler deux choses. Je pense que le problème, surtout des autorités locales, au niveau surtout des chefs de quartier et chefs de rue, à ma connaissance, en tout cas, c'est comme s'ils n'existent pas. C'est vrai que peut-être ils ne sont pas motivés, mais ce n'est pas moi, je ne partage pas du tout cette idée, puisque j'essaie très bien depuis très longtemps, depuis qu'on était enfant, surtout en Deuxième République, nous avons vu vraiment des chefs de quartier, des chefs de rue, qui faisaient preuve vraiment de connaissances, ils se faisaient vraiment sentir, et tout le monde savait que partout, les chefs de quartier travaillaient. Moi, je pense que c'est peut-être avec l'avènement, premièrement d'abord, avec l'avènement peut-être de la démocratie, je pense que peut-être la démocratie est mal comprise, en quelque sorte. Et la deuxième chose, je pense que c'est un problème des attributions. Est-ce que nos autorités locales savent au moins leurs attributions? Est-ce qu'ils connaissent où commence leur pouvoir?
Oui, s'il vous plaît, Jean-Claude. S'il vous plaît, Jean-Claude. Vous nous écoutez?
Oui, je vous suis.
Voilà, alors, on fait ceci. Vous restez en ligne, Jean-Claude. Tant nous le demandons aussi à Gaston et à Richard, vous restez en ligne. On va vous accorder à nouveau la parole, hein, juste après le bulletin d'information. Donc, restez en ligne. Et nous rappelons aux auditeurs, ils peuvent aussi nous rejoindre en composant les 081-890-63-15 pour leur participation en direct.
Pour s'informer, de plus en d'internautes choisissent radiocapi.net. Chaque mois, vous êtes plus d'un million à nous suivre sur www.radiocapi.net et votre avis nous intéresse. Chaque jour, une question d'actualité est à la une du site, plusieurs propositions. Exprimez votre opinion. Écoutez les résultats de cette consultation sur l'antenne chaque jour à 8h45 et après les infos de 16h30 sur radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Voilà, nous poursuivons avec parole aux auditeurs. Nous avons en ligne Jean-Claude. Mbashi, Jean-Claude, vous êtes avec nous?
J.R., je suis avec
vous. Voilà, vous avez parlé tout à l'heure de la démocratie qui est mal comprise, qui peut constituer d'ailleurs un frein.
Oui, je disais que la démocratie est en quelque sorte mal comprise, puisque... Et cela, c'est pas seulement au niveau de quartier, au niveau des rues, mais c'est à tous les niveaux. Donc on a l'impression comme si la démocratie c'est quelque chose, une sorte de libertinage où il faut laisser vraiment trop de liberté pour donc aux citoyens. Mais je pense que ce n'est pas du tout ça, puisque c'est vrai, nous devons être libres, mais dans les limites de respect des lois qui régissent quand même l'État congolais. Je pense que le problème, peut-être, c'est aussi la sensibilisation. Donc, faire comprendre vraiment aux citoyens qu'est-ce que c'est la démocratie. Et lorsque maintenant c'est perçu au niveau des autorités locales, et ils ont cette impression de laisser un peu trop libres les citoyens. Et ça, moi, je pense que c'est ce qui fait mal tourner un peu les activités au niveau des autorités locales. Il y a aussi le problème que je disais, le problème des attributions. Est-ce que les autorités locales, à leur niveau, ils savent où ils connaissent leurs attributions. C'est ça aussi le plus grand problème, puisque nous voyons qu'il y a trop de confusion. Vous voyez vraiment que le chef de quartier ou le chef de rue, il ne sait même pas ce qu'il doit nécessairement faire. Et ça, vraiment, c'est vraiment un grand problème au niveau des autorités locales. Vous en conviendrez avec moi, M. JR, si seulement quelqu'un ne connaît pas ce qu'il doit faire. Moi, je me demande qu'est-ce
qu'il
peut faire.
Donc, c'est difficile qu'il soit vraiment à l'œuvre. Oui.
Et je disais, M. JR, qu'on doit organiser chaque fois vraiment qu'on... Puisque de toutes les façons, on ne vote pas, on n'a pas encore voté les autorités locales. Donc
vous proposez comme les autres qu'on passe rapidement aux élections locales, c'est
mais
ça?
C'est mieux de créer
d'organiser les élections.
Des formations ou des recyclages à ce niveau-là pour qu'on amène les gens à connaître ce qu'ils doivent faire.
Okay.
S'ils ne savent pas, vraiment, ce sera le comble total.
Merci beaucoup, Jean-Claude. Nous prenons Gaston qui est en ligne. Gaston, vous êtes avec nous à Kinshasa. Bonjour, Gaston.
Vous aussi.
Oui, Gaston, vous avez la parole.
D'accord. Je voulais au moins utiliser la diplomatie aujourd'hui, mais pour me comporter comme Jean-Claude, je constate que notre invité a de bonnes intentions, mais il a certaines confusions qu'il faut aussi en quelque sorte révéler ici. Moi, je constate que notre population, c'est bien sûr que notre population doit avoir une idée sur l'architecture institutionnelle de notre pays. C'est ce qui crée confusion aujourd'hui. D'ailleurs, nous avons, dans le cadre de la sensibilisation sur la décentralisation, qui normalement doit être abordée dans le cadre de la Constitution, mais aussi la loi sur la décentralisation de notre pays, pour que notre population puisse savoir comment est-ce que la décentralisation fonctionne chez nous. L'architecture, en soi, nous avons notre État qui est là, et puis nous avons au second niveau les provinces, donc les pouvoirs sont organisés à des niveaux, l'État central, le pouvoir central, les provinces, mais aussi dans les provinces on trouve des entités territoriales décentralisées. Entre autres, il y en a quatre. Parce que dans les quatre, là, vous allez constater que les quartiers ne figurent pas. Comme ça ne figure pas, ils resteront, à mon avis, des entités, des simples entités chargé d'exécuter les décisions provenant du niveau central. Nous avons la commune, la ville, les secteurs ainsi que la chefferie, qui sont des entités décentralisées, qui normalement, ces dirigeants-là devraient accéder au trône par les élections qui ne sont pas encore organisées jusque-là, mais je pense que c'est en cours.
C'est pour bientôt.
Je pense pour les territoires, ces gens-là resteront toujours nommé, et puis parce qu'ils dépendent du pouvoir central. Mais j'allais dire une chose par rapport à la compréhension. Par rapport à la compréhension, vous savez que notre population en soi a un problème. Le problème, c'est que nous ne produisons pas. Imaginez qu'on a accordé certaines compétences aux entités décentralisées, et ces entités-là sont censées produire au niveau local et puis payer les impôts, les taxes. Ces impôts-là vont servir aux besoins de l'entité. Mais vous allez constater qu'au niveau comme des entités que je venais de citer, ce sont des entités...
La plupart, ce sont des entités politiques, c'est ça.
On ne produit pas. Mmh. Et puis, les peu de moyens qui peuvent provenir de la caisse de péréquation ou des rétrocessions, ça peut aider. Mais moi, je pense qu'il faut qu'on sensibilise la population pour produire et puis... contribuer, prendre les décisions au niveau local, ce serait une bonne chose.
Merci beaucoup. Oui. Merci beaucoup, Gaston, d'avoir appelé. Richard, vous avez une minute. Bonjour, Richard.
Bonjour, J.R.
Votre point de vue.
Bien, ma petite contribution est celle-ci. Je commence par une petite introduction. Je dis bravo à l'invité parce que il a amené des idées qui peuvent amener les gens à aller de l'avant. Entre autres, notre 1000 francs ou 100 francs pour les élections, parce que ça nous poussera à nous approprier les élections. Deuxièmement, j'ai horreur du terme renforcement de la capacité ou je ne sais pas, de l'autorité de l'État. Mm-hmm. Parce qu'au bout de ça, il y a toujours des choses mauvaises qu'on fait à la communauté par ceux qui claironnent ce genre de mots. Mm-hmm. Et maintenant, voici ma contribution. Pour que la territoriale réussisse et que ça conduise le Congo au développement.
Il faut que cette territoriale ait comme socle, au niveau des autorités qui seront élues demain ou nommées, le socle sera le mandat programme. Est-ce que celui-là qu'on a nommé là, par parachutage ou pas, a-t-il un programme? Son mandat là, est-ce que c'est un mandat programme? Alors, pour moi, le mandat programme doit contenir un...
Oui, rapidement, rapidement, Richard.
Oui, le renforcement de la confiance entre cette autorité et la communauté. Deuxièmement, il doit faire preuve, lui, cette autorité, de bienveillance. Troisièmement, il doit faire preuve aussi d'ouverture pour le contrôle de la communauté sur lui. Parce que s'il n'y a pas de contrôle de la communauté sur lui, c'est-à-dire la gestion transparente, tout ce qu'on est en train de faire, c'est zéro.
Ça sera zéro.
On rentrera à la case de départ pour chercher maintenant une blanchisserie nationale concertation.
Merci. Merci beaucoup, Richard, d'avoir appelé de Kinshasa. Et Jean-Pierre, vous n'avez que 30 secondes, parce qu'on va accorder la parole à notre invité pour la conclusion. Jean-Pierre, vous êtes à Isiro, bonjour.
Bonjour à vous.
Malheureusement, elle est en fait défaut. On vous demanderait d'être précis.
Ma préoccupation est celle de faire savoir à l'invité que c'est bien et toutes ces idées sont bonnes. Mais moi, j'encourage beaucoup que le développement puisse commencer à la base. Quand ça commence à la base, toute la population a la situation à main. Et la population congolaise est constituée à la majorité des agriculteurs. Je pense que si nous commençons à voir nos secteurs et nos chefferies avec leur budget, que les gouvernements commencent d'abord à appuyer ces chefferies pour que ces chefferies aient des moyens pour qu'ils puissent encore avoir ces moniteurs agricoles, la population à la base aura quelque chose comme argent et cela pourra permettre à ces secteurs et à ces chefferies à avoir quelque chose aussi dans leur budget, car sa population aura déjà quelque chose. Mais une population qui ne produit pas, on ne peut pas s'attendre...
Dommage Jean-Pierre, on ne saura pas... Voilà, merci beaucoup Jean-Pierre. Revenons à vous, Dany, pour la conclusion. On a que 2 minutes. Si on peut ramasser d'ailleurs les dernières interventions et puis conclure.
Ok, merci. Je commence par la dernière intervention. Je suis d'accord avec notre auditeur qui ne fait que nous relayer et j'ai dit que le développement n'est pas spontané. Il faut vraiment construire l'environnement qui va recevoir ou qui va privilégier ce développement, et cet environnement doit se construire dans la sincérité, avec un idéal et une vision sociopolitique claire. C'est ça que nous devons faire. Au niveau de la base, commencer à organiser, à aider les gens à bien s'organiser, à avoir un bel idéal, à avoir une vision sociopolitique claire de leur pays, et ainsi nous serons sûr que nous sommes en train de former des gens capables de nous représenter. Les élections municipales qui arrivent seront des élections indirectes. Et comme ils seront indirectes, il faut que nous soyons sûrs que nous avons élu des conseillers dignes de nous choisir quelqu'un, comme notre ami vient de le dire, qui a un mandat programme. Ce n'est pas la population qui présentera son mandat programme, mais il le présentera au niveau des conseils municipaux afin qu'il soit élu. Et là, choisissons des gens dont nous sommes sûrs. Et la confusion dont on a parlé, moi je ne pense pas qu'il y a des confusions, mais j'ai dit oui, il y a des entités territoriales décentralisées et il y a aussi des entités déconcentrées comme les quartiers où il n'y aura pas des élections bien sûr, mais nous devons créer avec des comités de quartier que nous sommes en train de mettre en place, avec ces cadres de concertation au niveau des quartiers, c'est pour que ces gens qui sont des administratifs, parce que les chefs de quartier sont des administratifs, on les met en confiance avec nous et nous représente. Aujourd'hui, nous avons les séquelles de la dictature, où le chef de quartier était là avec son bâton et tout ça, pour défendre les idéaux du parti, et nous pensions que c'était bon. Mais aujourd'hui, ce temps est révolu, nous sommes dans la démocratie, nous devons créer un climat de confiance, un rapport démocratique, un rapport de sincérité, que nous sommes, que
c'est,
nous, c'est, les, c'est, la c'est population...
Cette démocratie qui est mal comprise.
Oui, et c'est ça le rôle de la société civile, c'est ça le rôle du Senadep, le rôle du réseau Prodes à travers lequel nous mettons aussi ces genres de concepts. Et nous disons que si nous nous organisons, si nous arrivons à mettre en place des cadres, un environnement serein, nous serons à mesure de créer un environnement propice au bon développement de nos cas.
Dany Singoma, nous rappelons que vous êtes le directeur général de CENADEP, Centre National d'Appui au Développement et à la Participation Populaire. Merci d'avoir été notre invité et surtout merci d'avoir fait le déplacement de ce studio. On vous retrouve très prochainement.
Merci.
Voilà, on se quitte avec vous. Merci à vous tous d'avoir participé à ce débat. Merci également à Jean-Noël Mokondo pour la mise en onde de cette émission. Nadine Foula et Pierrot Lamégie ont réalisé cette production présentée par J.R. Lungembo sous la supervision de Nicole Ngaka. Réécoutez cette émission sur www.radiokapi.net. À très bientôt.